de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer entre autres. Il n'y a eu aucune aide étrangère pour sécuriser le sommet du forum AIS. Pour sécuriser le sommet du forum AIS, la police nationale collabore avec Pecalang Bali. OIKN et TALS collaborent pour construire une infrastructure technologique à IKN. Ministère indonésien de l'éducation soutient le cinéma indonésien en facilitant les délégations au BIFF 2023. Ministère indonésien du tourisme et de l'économie créative a déclaré que l'économie créative de l'Indonésie se classe au troisième rang mondial. Jakarta ouvre l'opportunité d'accueillir le semi-marathon asiatique 2024. Jeux asiatiques 2022 seront une évaluation en vue des JO de Paris. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Il n'y a aucune assistance sécuritaire ou militaire de la part de pays étrangers pour sécuriser le forum du sommet des États archipélagiques et insulaires, sommet AIS 2023 à Nusa Dua, Bali. Cela a été transmis par le commandant de l'armée nationale indonésienne, l'amiral Yudo Margono, après avoir organisé le jeu tactique au sol TFG au Yudomo Sport Hall, Kepaon, Denpasar, dimanche. Le commandant a souligné que la police nationale et tous les éléments impliqués dans l'opération de sécurité pour le sommet du Forum AIS 2023 ont été en mesure d'assurer la sécurité comme cela a été mis en œuvre lors d'autres événements internationaux tels que le sommet du G20 à Bali et le sommet de l'ASEAN à Labuan Bajo et à Jakarta. Dimanche après-midi, toute la force opérationnelle en service sur le terrain assistera au jeu tactique au sol dirigé directement par le commandant de l'armée nationale indonésienne, Yudo Margono, et le chef de la police nationale, Listio Sigit Prabowo. La police nationale collabore avec Pecalang Bali pour organiser le sommet du Forum AIS les 10 et 11 octobre 2023. Pecalang est la police balinaise traditionnelle chargée de garder, sécuriser et ordonner les villages et les zones, à la fois dans les activités quotidiennes et les cérémonies traditionnelles. Le chef du groupe de travail des relations publiques pour l'opération Tribrata Agung 2023, le général de brigade Ahmad Ramadan, dans son communiqué de presse dimanche, 8 octobre a déclaré qu'en dehors de Pechalan, la police nationale a déployé 4083 policiers dans l'opération Tribrata Agung 2023. Tout cela dans le but de garantir la tenue sûre et fluide du sommet du Forum AIS 2023. Ramadan a révélé que l'opération Tribrata Agung s'est déroulée pendant 6 jours, soit du 8 au 13 octobre 2023. Cela signifie que la police nationale a assuré la sécurité avant et après le sommet du Forum AIS 2023. Archipelago, Capital Authority OIKN et TOS France ont collaboré pour développer les infrastructures technologiques de la capitale nationale IKN Nusantara. Le chef de l'OIKN, Bambang Susantono, dans sa déclaration lundi à Jakarta, a déclaré qu'en plus de participer au développement des infrastructures technologiques dans la capitale de IKN, l'entreprise technologique française a également participé à la formation de la communauté concernée afin qu'elle puisse s'adapter aux changements technologiques existants. La stratégie qui peut être mise en œuvre pour que la société puisse s'adapter aux changements technologiques consiste à offrir des chances égales à tous les niveaux de la société de pouvoir participer aux changements technologiques existants et à donner la priorité aux aspects écologiquement durables. Le ministre de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la République d'Indonésie, Nadiem Anwar Makarim, soutient la qualité des films indonésiens, notamment en facilitant les délégations au 28e Festival international du film de Busan BFF en Corée du Sud du 4 au 13 octobre 2023. Dans sa déclaration dimanche, Nadiem a expliqué que son parti travaillait depuis longtemps avec les cinéastes indonésiens pour construire des stratégies et des écosystèmes appropriés pour soutenir les réalisations et la présence des réalisateurs et œuvres indonésiens sur la scène mondiale. Par exemple, grâce à la facilitation des bourses non diplomates pour les acteurs de cinéma et aux fonds indonésiens lancés dans le cadre du 18e épisode de Merdeka Belajar, ainsi qu'à des fonds de contrepartie pour la coproduction cinématographique internationale. Au BIFF 2023, 15 titres de cinéastes indonésiens seront en compétition et projetés dans le programme de concentration sur le cinéma indonésien, Renaissance du cinéma indonésien, comprenant des courts-métrages, des longs-métrages et des séries. L'Indonésie occupe la troisième place parmi les pays dotés de la meilleure économie créative au monde après la Corée du Sud et les États-Unis. C'est ce qu'a déclaré dimanche le ministre du Tourisme et de l'Économie créative de la République d'Indonésie, Sandiaga Uno, lors d'une visite de travail à Cirebon dans l'ouest de Java. Il a expliqué qu'il existe trois sous-secteurs qui contribuent grandement à l'économie créative en Indonésie, à savoir la cuisine, l'artisanat et la mode. Selon Sandiaga, l'industrie nationale de la musique et du cinéma a également l'opportunité de devenir l'un des secteurs susceptibles de se développer rapidement au cours des prochaines années. En outre, il a déclaré que le secteur de l'économie créative pourrait réduire le chômage en Indonésie car il avait créé 24 millions d'emplois dans ce secteur. Une autre réalisation positive de ce secteur est qu'il a contribué à stimuler l'économie nationale. Le gouvernement provincial de Jakarta prépare actuellement un appel d'offres pour accueillir le semi-marathon asiatique 2024. Cela a été transmis par le gouverneur par intérim de Jakarta, Heru Budi Hartono, lors d'une conversation informelle sur la course Beten Jakarta 2023 dans la région de Gelora Bung Karno Jakarta dimanche. Heru Budi a également déclaré que Jakarta se concentre sur les événements qui encouragent le développement du tourisme sportif à Jakarta. Il a estimé que cet événement peut contribuer à stimuler l'économie. Le semi-marathon asiatique 2024 devrait avoir lieu en novembre de l'année prochaine. Le président du comité olympique indonésien KOINOC d'Indonésie, Raja Sabta Oktohari, dans sa déclaration citée par Antara dimanche, a estimé que les résultats de l'équipe indonésienne aux Jeux asiatiques de Hangzhou 2022 devaient être une note et une évaluation conjointe. Matériel pour les Jeux olympiques de Paris 2024, l'équipe indonésienne a clôturé les Jeux asiatiques de Hangzhou 2022 avec 7 médailles d'or, 11 d'argent et 18 de bronze. Avec ces résultats, l'Indonésie s'est classée 13e au classement final. Le total de médailles à Hangzhou a été le meilleur depuis que les Jeux asiatiques se sont déroulés hors d'Indonésie au cours des 41e dernières années. Aux Jeux asiatiques de New Delhi en 1982, l'Indonésie a remporté 4 médailles d'or, 4 d'argent et 7 de bronze. Pendant ce temps, en termes de classement, la position de l'équipe indonésienne s'est améliorée depuis les Jeux asiatiques Busan, Corée du Nord de 2002. À cette époque, l'équipe indonésienne était classée 14. Bonjour, je vais tard, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « Le Hamas lance la plus grande attaque contre Israël ». Le Hamas, qui est une faction de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, a lancé une attaque contre Israël samedi matin 7 octobre 2023. Il s'agit de l'une des plus grandes de ces dernières années. Plus de 5000 roquettes ont été tirées sur Israël depuis la bande de Gaza. Les combattants du Hamas ont ensuite entré dans les colonies israéliennes depuis la bande de Gaza. Cela a ensuite déclenché des combats dans au moins 22 endroits à la frontière sud-ouest d'Israël. Les combats se poursuivaient dans la région jusqu'à dimanche matin. Les violences ont tué des centaines de personnes des deux côtés. À notre connaissance, au moins 600 Israéliens ont été tués et 1800 autres blessés. Les représailles israéliennes ont tué au moins 313 Palestiniens et blessé près de 2000 autres. L'armée israélienne a également déclaré avoir capturé des dizaines de militants du Hamas. De son côté, le Hamas a également déclaré avoir pris en otage un certain nombre d'Israéliens après l'attaque de samedi. On ne sait pas encore exactement combien de personnes sont retenues en otage. Le premier Israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré samedi que son pays était en guerre. Les violences entre les deux parties se sont poursuivies jusqu'à soir. Israël a lancé les bombardements aériens contre 826 cibles dans la bande de Gaza. Le Hamas a également tiré un certain nombre de roquettes vers Israël, notamment vers la zone résidentielle de Sderot, où les troupes israéliennes et le Hamas avaient déjà impliqué à des combats. De notre côté, un autre opposant israélien, à savoir le groupe militant Hezbollah au Liban, a également tiré des mortiers sur Israël samedi soir. Israël a également lancé des tirs en réponse. L'autorité palestinienne a demandé une réunion d'urgence avec la Ligue arabe. L'agence de presse palestinienne Wafa l'a rapporté dimanche. Le même jour, le leader de la Ligue arabe, Ahmed Abulghait, se rendit à Moscou pour discuter de la situation à Gaza avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. La Palestine souhaite discuter des développements survenus ce week-end avec les ministres des Affaires étrangères des pays arabes. À travers cette réunion d'urgence, l'autorité palestinienne a déclaré vouloir discuter de l'agression israélienne contre le peuple palestinien. Mohamed Akluk, représentant permanent de la Palestine auprès de la Ligue arabe, l'a déclaré à l'agence de presse palestinienne Wafa. Il espère mobiliser les politiques des pays arabes et du monde pour assurer une protection au peuple palestinien sur la base du droit international. Pendant ce temps, le ministère indonésien des Affaires étrangères exprimait sa préoccupation face à l'escalade croissante du conflit israélo-palestinien. L'Indonésie demande que les actes de violence cessent immédiatement pour éviter d'augmenter le nombre de victimes humaines et matérielles. L'Indonésie demande également instamment que la racine du conflit, à savoir l'occupation des territoires palestiniens par Israël, soit résolue immédiatement conformément à ce qui a été convenu par l'ONU. Espérons qu'une résolution puisse être obtenue rapidement afin que les actes de violence des deux côtés ne s'éternisent pas et n'entraînent pas de nouvelles victimes. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de l'histoire d'aujourd'hui. Avec moi, Audrey. Nous allons commencer l'histoire d'aujourd'hui avec le 9 octobre 1934, décès de Jean-Louis Barthou, premier ministre français. Jean-Louis Barthou était un homme politique français qui fut premier ministre. Durant son mandat en juillet 1913, il introduisit un système d'allocation pour les familles avec enfants. En outre, il a également promulgué une loi garantissant les droits des travailleuses avant et après la naissance. Il est également connu pour avoir été ministre des Affaires étrangères en 1934. Il fut une figure importante à l'origine du traité franco-soviétique d'assistance mutuelle de 1935, bien que ce traité ait été signé par son successeur, Pierre Laval. En 1934, il tenta également de former un pacte oriental composé de l'Allemagne, de la Russie, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et des États baltes. De plus, il réussit à faire adhérer l'Union soviétique à la Société des Nations en septembre 1934. Dans le cadre de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères, Bartou rencontre le roi Alexandre Ier de Yougoslavie le 9 octobre 1934, alors que le roi est en visite d'État à Marseille. Cependant, le roi a été abattu par le combattant bulgare Vlado Chernozemski. Bartou a été touché par une balle perdue et il est finalement mort après avoir perdu trop de sang. Nous continuons l'histoire d'aujourd'hui avec le 9 octobre 1960, l'indépendance de l'Ouganda. La République de l'Ouganda est un pays d'Afrique de l'Est. Au 19e siècle, l'Ouganda était contrôlé par l'Angleterre et l'Égypte. À cette époque, l'Ouganda est devenu une province égyptienne appelée Équatoria. En 1894, l'Ouganda est devenu un protectorat de l'Empire britannique. Et finalement, le 9 octobre 1962, l'Ouganda a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne. Sir Edward Mutisa II d'Edward Mutisa Walugembe en tant que premier président de l'Ouganda. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec la commémoration de la Journée mondiale de la Poste. La Journée mondiale de la Poste, ou Journée de la correspondance internationale, est célébrée chaque 9 octobre. La Journée mondiale de la Poste a été inventée pour la première fois le 9 octobre 1969 lors du Congrès de l'Union postale universelle, UPU, tenu à Tokyo, au Japon. Ce lancement a été réalisé pour commémorer la fondation de l'UPU en 1874. L'UPU a été créé comme moyen de coopération et de régulation de la correspondance entre les pays membres de l'ONU. L'UPU joue un rôle de conseiller, de médiateur et de liaison, ainsi que de fourniture d'assistance technique si besoin. Selon le site officiel de l'Union postale universelle, l'objectif de la Journée mondiale de la Poste est de sensibiliser le public à l'importance de la Poste dans la vie quotidienne ainsi qu'au développement socio-économique mondial. Bon, chers auditeurs, c'est tout. L'histoire d'aujourd'hui.
Dihadapi, lalu mengapa kau diam saja, tak berdaya? Di belia usia, di masa yang paling indah, kau tampak tak bergairah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, mudah putus asa dan kehilangan. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kaum muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan arah.
Première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour la Bixu Bang, voici donc mon Indonésie et pour le titre, l'Indonésie a le potentiel pour devenir l'épicentre de l'industrie de l'emballage dans l'ASEAN. L'industrie de l'emballage est l'une des industries dont le marché connaît une croissance relativement élevée. Le directeur général de l'agro-industrie du ministère de l'Industrie, Putu Juli Artika, lors d'une conférence de presse pour les 22e exposition tous les emballages de l'Indonésie et la 24e exposition toutes les impressions de l'Indonésie au bâtiment du ministère de l'Industrie à Jakarta vendredi 6 octobre a déclaré qu'en 2022, la production locale d'emballage augmenterait de 5% avec une valeur de production comprise entre 107,1 et 110,2 billions de roupies. Tandis qu'en 2023, elle devrait croître de 6% et la valeur de la production d'emballage devrait atteindre 116 800 milliards de roupies à la fin de cette année. Citant la page du ministère de l'Industrie, Putu Juli Artika expliquait que plusieurs facteurs qui influencent la croissance de l'industrie de l'emballage et de l'impression sont les progrès de technologies d'emballage et d'impression ainsi que les exigences esthétiques. La demande décroissante d'emballages innovants de la part du segment des utilisateurs finaux, la demande croissante d'aliments et de boissons emballées, le développement de l'industrie pharmaceutique pendant la pandémie encourage également la croissance de l'industrie de l'emballage. Putu Juli Artika a ajouté que l'opportunité pour l'industrie de l'emballage et de l'impression de continuer à se développer est grande ouverte. Cela peut se produire en raison de l'augmentation des transactions de commerce électronique, de l'augmentation du nombre de démarrages de produits ainsi que des comportements des gens qui souhaitent que les choses aillent vite afin que les consommateurs se tournent vers les aliments et les boissons emballées. À la même occasion, la directrice de développement commercial de la Fédération indonésienne de l'emballage, IPF, Ariana Susanti, a estimé que l'Indonésie avait le potentiel pour devenir le plus grand centre industriel de l'impression d'emballage alimentaire de la région de l'Asie du Sud-Est. Selon elle, ce potentiel se reflète dans la richesse naturelle qui peut être utilisée comme matière première pour l'emballage et dans la maturité des acteurs économiques de l'industrie de l'emballage en Indonésie. Citant un rapport de l'agence de presse Antara, Ariana Susanti a déclaré que l'Indonésie fournit de nombreuses matières premières utilisées pour l'industrie de l'emballage des aliments et des boissons, à savoir la pâte et le papier. La pâte et le papier, l'un de ces produits provient de la transformation de bois d'eucalyptus, d'acacia et de pin plantés dans la région de Ogan Komering Ilir dans le sud de Sumatra. Selon les données du ministère de l'Industrie en 2022, la production de pâte et papier dans le sud de Sumatra atteindra 2,6 millions de tonnes par an pendant la période de record qui a lieu dans tous les 2 à 3 ans. Selon Ariana, cette richesse naturelle est suffisante pour produire l'emballage flexible qui domine actuellement. Ariana expliquait que le capital de richesse naturelle est de plus en plus renforcé par la maturité des acteurs économiques de l'industrie de l'emballage en Indonésie. Cela est prouvé par le nombre croissant d'hommes d'affaires indonésiens qui créent avec succès des usines d'emballage à l'étranger, comme au Vietnam, aux Philippines, en Thaïlande, en Malaisie et même en Chine. La Fédération indonésienne de l'emballage a noté que l'industrie des aliments et des boissons en Indonésie est l'une des plus grandes de la région d'Asie-Pacifique. Le volume du chiffre d'affaires augmentait de 4 à 6% par an, soit une valeur de 120 millions de roupias. C'est Juritar, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Mungkinkah aku yang salah
Bon, chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Ces auditeurs, le sud de Sulawesi offre une variété de destinations intéressantes, notamment le tourisme maritime. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent profiter des destinations maritimes du sud de Sulawesi, Bulukumba est l'une des régions proposant des destinations de tourisme maritime attrayantes. L'Ande est la falaise de Paralang, située dans le village d'Ara, district de Bonto Bahari, réserve de Bulukumba, province de Sulawesi du Sud. Il est très facile de se rendre à Paralang car il y a de nombreux panneaux routiers. Depuis Makassar, vous devez vous rendre à la résidence de Bulukumba avec un temps de trajet d'environ 4 heures. Après être entré dans la résidence de Bulukumba, vous devez suivre l'axe routier Bulukumba-Bira. Cet axe routier est assez long avec de belles vues. Après avoir parcouru environ 45 minutes, vous trouverez un panneau indiquant à Paralang sur le côté gauche de la route. Tournez à gauche et suivez les panneaux routiers. La route deviendra plus étroite. En entrant dans la région d'Apakalang, des forêts et des grands arbres vous accueilleront. En général, lorsque vous entendez le thème destination de touristique maritime, vous imaginez une plage avec une étendue de sable. Au falaise d'Apakalang, vous ne rencontrerez pas la beauté du sable blanc. Il n'y a que des rangées de falaises brutes et de vagues de fer lente. Cette combinaison lui donne en fait un aspect encore plus exotique. Le saut de falaise est une activité préférée des touristes en dehors, bien sûr, du snorkeling. À Paralang est entouré de belles falaises de corail. L'eau de mer est claire avec des nuances de vert turquoise pour que tout le monde puisse voir jusqu'au fond. Ces auditeurs du haut de la falaise, vous pourrez profiter de la brise marine qui pourra rafraîchir votre corps après le long voyage. Du haut de cette falaise également, vous pourrez immortaliser le bel vue de Paralang. Pour descendre la falaise, des escaliers sont à la disposition des visiteurs. Sur la falaise, on a construit des belvédères pour se reposer. Sur ce belvédère se trouve également une planche que les visiteurs peuvent utiliser pour sauter magnifiquement dans la mer. Si les vagues autour de Paralang sont calmes, vous pouvez faire la plongée en apnée sur cette plage. La direction met à disposition des installations de plongée en apnée. Cette zone est également équipée de toilettes et d'un parking. Malheureusement, il n'y a pas de restaurant dans cette zone. Vous devez donc apporter votre propre nourriture. Vous ne pouvez pas non plus passer la nuit ici, car il n'y a pas d'hébergement disponible. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonjour tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Ngarai Siano, Ngarai Siano. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Tangan terluka. Je répète, Tangan terluka signifie la main blessée. Cette conversation a eu lieu entre Chris George Robinson, un vlogueur australien, et Sortawli, l'ami de la communauté vlog de Chris, dans la région de Ngarai Sihanouk, la région d'Agam, la province de Sumatra de l'Ouest. Chris et Sortawli parlent de la main blessée de Chris. Écoutons la conversation.
Chris, tanganmu terluka?
Iya, tadi tergores pintu mobil ketika sampai di Ngarai Sihanouk.
Ini aku punya plaster.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Tangan terluka. Tangan terluka signifie la main blessée. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Tanganmu. Tanganmu signifie ta main. Terluka. Terluka signifie blessé. Chris, tanganmu terluka. Chris, tanganmu terluka signifie Chris, tu t'es blessé à la main. Tergores. Tergores signifie rayé. Pintu mobil. Pintu mobil signifie porte de voiture. Ketika. Ketika signifie quand. Sampai. Sampai signifie jusqu'à. Ngarai Sihanouk. Ngarai Sihanouk signifie Ngarai Sihanouk. Plaster. Plaster signifie plâtre. Dans la conversation, vous entendez Chris, tanganmu terluka. Chris, tanganmu terluka signifie Chris, tu t'es blessé à la main. Dans ce discours, il y a l'expression tanganmu terluka. Je répète, tanganmu terluka signifie ta main est blessée. L'expression tanganmu terluka signifie ta main est blessée et utilisée pour décrire l'état du corps. Pour décrire l'état du corps, vous pouvez mentionner les parties du corps, telles que tangan. Tangan signifie la main, suivi de leur état, comme terluka. Terluka signifie blessé. Le mot terluka, je répète, terluka exprime l'état du corps qui a été blessé. Allez, écoutez des exemples d'expressions pour décrire l'état du corps dans d'autres phrases. Kepala saya pusing. Kepala saya pusing signifie j'ai mal à la tête. Perutku mulas.
Perutku mules. Signifie j'ai mal au ventre. Il existe plusieurs versions du mythe de la formation de Ngarai Sihanouk. L'un d'eux est l'histoire d'un garde du roi qui a divisé le pays en deux parties séparées par une rivière limpide. Cette zone est maintenant le Ngarai Sihanouk. Avant de terminer à apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, écoutons encore une fois la conversation.
Chris, tanganmu terluka.
Iya, tadi tergores pintu mobil ketika sampai di Ngarai Sihanouk.
Ini aku punya plaster.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson kroncong intitulée Hijaunya Negeriku. Chers amis, Hijaunya Negeriku est une chanson kroncong sortie le 7 avril 2023. Cette chanson créée par Suradi Santoso, une chanson popularisée par une chanteuse vétérane de Kroncong qui existe toujours, à savoir Tutti Mariati. Cette chanson raconte l'histoire d'une invitation faite à chacun de voir la beauté de l'Indonésie. Mon cher Jeter, voici la chanson Kroncong intitulée Hijaunya Negeriku, chantée par Tutti Mariati. Bonne écoute. Thank you.
yang jauh tanpa batas. Sawah ladang menghijau bersambung birunya menjaganya. Indonesia Raya, oh generasi muda, tumpuan harapan siapkanlah dirimu untuk bangsa dan negara. Pandang jauh tanpa batas, sawah ladang menghijau bersambung birunya.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.